Chapitre 3 qui nous représente M. Dombey comme homme et comme père à la tête de l'administration intérieure de sa maison. Les funérailles de feu Mme Dombey ayant été célébrées à l'entière satisfaction de l'entrepreneur et des gens du voisinage, gens disposés généralement à se montrer sévères sur ce point et à se scandaliser des plus légères omissions et du plus petit oubli des convenances dans de semblables cérémonies, les différents membres de la maison de M. Dombey reprirent leurs places respectives dans l'économie du système domestique. Ce petit monde, aussi bien que le grand, a la faculté d'oublier aisément ceux qui ne sont plus. « C'était une bonne personne, » dit la cuisinière. « Que voulez-vous, c'est le sort commun, » fit la femme de charge. « Qui l'eût pensé, pourtant ?» s'écria le sommelier. « En vérité, je puis à peine y croire, » soupira la femme de chambre. « C'est comme un rêve, » conclut le valet de pied. Et le sujet étant épuisé, chacun trouva qu'il y avait déjà longtemps que l'on portait le deuil. Quant à Richard, que l'on avait établi à l'étage supérieur, dans un état d'honorable captivité, l'horreur de sa nouvelle vie lui apparaissait froide et triste. La maison de M. Dombey était vaste, exposée au nord et donnant sur une longue rue sombre, d'un « comme il faut » à faire peur, et située dans le quartier entre Portland Place et Bryanstone Square. Elle faisait le coin de la rue dont elle était séparée par de larges sous-sols où les caves, fermées d'une manière menaçante par des fenêtres à barreaux, lorgnaient de travers des portes mal bâties conduisant au commun. C'était une maison d'un aspect lugubre, formant rotonde par derrière et contenant une longue enfilade de salles donnant sur une cour sablée. Dans cette cour se trouvaient deux arbres décharnés, dont le tronc et les branches étaient noirs, et dont les feuilles desséchées par la fumée râlaient au souffle du vent. Le soleil d'été ne se montrait dans la rue qu'à l'heure du déjeuner. Il venait avec les porteurs d'eau, les marchands de vieux habits, les revendeurs de géraniums, les raccommodeurs de parapluies et l'horloger ambulant qui faisait entendre un carillon tout le long du chemin. Le soleil disparaissait bientôt pour ne plus revenir de la journée et laissait la place aux chanteurs des rues, aux parades de polichinelles, aux orgues de barbarie et aux souris blanches, ou de temps à autre, pour varier les plaisirs, à un porc-épic. Puis c'était le tour des chefs de cuisine à se tenir sur le pas de la porte à la brune lorsque les maîtres dînaient en ville. Enfin survenait l'allumeur de réverbères qui, chaque soir, allumait le gaz sans jamais pouvoir éclairer la rue. La maison de M. Dombey apparaissait aussi triste à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les funérailles terminées, M. Dombey fit couvrir tous les meubles, sans doute dans le but de les conserver pour son fils, qu'il associait déjà dans sa pensée à tous ses plans, et fit dégarnir toutes les chambres, à l'exception de celles qu'il se réservait au rez-de-chaussée. Par suite de cet arrangement, les tables et les chaises, entassées au milieu des pièces, avaient pris des formes mystérieuses sous les grands linceuls qui les recouvraient. Les cordons de sonnette, les stores, les glaces enveloppées de journaux quotidiens ou hebdomadaires présentaient par fragments des récits de morts subites et d'assassinats effrayants. Les lustres et les candélabres, dans leurs housses et leurs toiles écrues, faisaient l'effet de larmes monstres qui tombaient du plafond en deuil. L'air qui pénétrait par les cheminées était froid, humide, comme l'air des voûtes et des caves. Le portrait de la défunte prenait une expression sinistre sous les bandelettes lugubres qui enveloppaient le cadre. Le moindre vent qui soufflait faisait tournoyer dans un coin de la cour des écuries voisines quelques fétus de la paille jetée dans la maison pendant la maladie de Mme Dombey, et dont quelques débris pourris se voyaient encore çà et là dans le voisinage. Ces brins de paille, comme attirés par une force invisible, allaient se fixer sur le seuil d'une sale maison à louer juste en face de la sienne, d'où ils semblaient rappeler à la maison Dombey, dans leur triste langage, le douloureux événement. L'appartement que M. Dombey s'était réservé donnait sur le vestibule et se composait d'un boudoir, d'une bibliothèque convertie en cabinet de toilette, si bien que l'odeur du papier satiné, du vélin, du maroquin, du cuir de Russie se mêlait à l'odeur des paires de bottes. Puis on arrivait à une espèce de galerie ou de salle à manger vitrée. De là, on pouvait apercevoir les deux arbres dont j'ai parlé, et souvent des chats rôdeurs venaient animer le paysage. Ces trois pièces se commandaient. Le matin, quand M. Dombey s'était fait servir son déjeuner dans une des deux premières chambres, ou bien à l'heure de son dîner, on sonnait Richard, qui se rendait aussitôt dans la galerie où elle se promenait avec son petit nourrisson. Elle avait toujours vu M. Dombey, assis dans l'obscurité à une assez grande distance, cherchant à apercevoir l'enfant du milieu de ces vieux meubles noircis par le temps. Car il faut dire que la maison avait été habitée pendant de longues années par le père de M. Dombey, et que sous plus d'un rapport, elle avait passé de mode et présentait un aspect maussade. Richard, d'après ce qu'elle avait pu voir de M. Dombey, commençait à le regarder dans sa solitude, comme un reclus dans sa cellule, ou comme une apparition fantastique qu'il ne fallait pas approcher ou reconnaître. Tel était l'avis que, depuis plusieurs semaines, la nourrice avait mené et avait fait mener au petit Paul. Elle venait de monter l'escalier après une triste promenade dans les sombres pièces de la maison, car elle ne sortait jamais sans Madame Chick, qui, ordinairement accompagnée de Miss Tox, venait la chercher, quand la matinée était belle, pour lui faire prendre l'air avec le petit Dombey. Promenade qui consistait à les faire marcher sur les trottoirs avec la gravité d'un convoi funèbre. Richard s'était assise dans sa chambre, quand la porte s'ouvrit doucement, une petite fille aux yeux noirs parut sur le seuil. « C'est sans doute Mademoiselle Florence qui revient de chez sa tante, » pensa Richard, qui n'avait pas encore vu la petite fille. « Bonjour, mademoiselle. »« Est-ce là mon frère ?» demanda la petite fille, en montrant du doigt le petit enfant. « Oui, ma mignonne, » répondit Richard, « venez l'embrasser. » Mais l'enfant, au lieu d'avancer, la regarda fixement et lui dit « Qu'avez-vous fait de maman ?»« Pauvre petite, » s'écria Richard, « quelle triste question !» « Ce que j'en ai fait ? Mais rien, mademoiselle. »« Eh bien, qu'a-t-on fait de maman, alors ?» demanda l'enfant. « Je n'ai jamais rien vu de si attendrissant, » dit Richard, qui, tout naturellement, se figurait entendre un de ses enfants faire cette question dans une semblable circonstance. « Approchez-vous, chère petite, n'ayez pas peur de moi. »« Je n'ai pas peur de vous, » dit l'enfant en s'approchant. « Mais je veux savoir ce qu'on a fait de maman. » « Ma bonne petite, » dit Richard, « cette robe noire, vous la portez en souvenir de votre maman. »« Oh !» répondit l'enfant, et des larmes jaillirent de ses yeux, « je me souviendrai toujours de maman, avec n'importe quelle robe. »« Mais on porte des vêtements noirs en souvenir des personnes qui sont parties. »« Où parties ?» demanda l'enfant. « Eh bien, asseyez-vous près de moi, » dit Richard, « et je vais vous raconter une histoire. » Dans l'espérance qu'on voulait lui expliquer ce qu'elle avait demandé, la petite Florence posa le chapeau qu'elle avait jusqu'alors gardé à la main, s'assit sur un tabouret au pied de la nourrice et la regarda en face. « Il y avait une fois, dit Richard, une dame, une bien bonne dame, et sa petite fille qui l'aimait tendrement. » « Une bien bonne dame et sa petite fille qui l'aimait tendrement, » répéta l'enfant. Cette bonne dame, quand ce fut la volonté de Dieu, tomba malade et mourut. L'enfant frissonna. Elle mourut pour ne plus jamais reparaître en ce monde et fut ensevelie dans la terre où croissent les arbres. « Dans la terre toute froide ? » dit l'enfant, en frissonnant de nouveau. « Non, dans la terre bien chaude, » reprit Polly, saisissant le beau côté de cette idée. « Dans la terre où les vilaines petites graines deviennent de belles fleurs, « dans la terre où pousse l'herbe, le blé et tout ce que l'on voit. « Dans la terre où les bonnes personnes prennent la forme des anges pour s'envoler dans le ciel avec de belles ailes blanches. » La petite fille, qui avait penché la tête, la releva et regarda attentivement Richard. « Et, dit Polly en s'arrêtant un instant. Ce regard qui semblait pénétrer sa pensée, le désir qu'elle avait de consoler l'enfant, son peu de confiance en elle-même, malgré le petit succès qu'elle venait d'obtenir, tout la troublait. Et, reprit-elle, se remettant un peu, quand la dame fut morte, de l'endroit où elle fut mise, elle s'envola vers Dieu et le pria, le supplia, dit Polly en s'attendrissant plus qu'elle ne le voulait, car elle était véritablement émue, elle le supplia d'apprendre à sa petite fille à croire avec certitude, au fond de son cœur, qu'elle était dans le ciel, qu'elle y était heureuse, qu'elle l'aimait toujours. De lui dire d'espérer et de faire tous ses efforts pendant toute sa vie pour venir rejoindre sa mère un jour et ne plus s'en séparer jamais, jamais. « C'était maman !» s'écria l'enfant, se jetant au cou de Polly et l'enlaçant dans ses bras. Et le cœur de l'enfant, continua Polly, la serrant contre elle, le cœur de la petite fille était si plein de foi qu'en entendant ce récit de la bouche d'une simple nourrice, qui savait à peine raconter, mais qui était une pauvre mère, la petite fille se sentit un peu consolée. Elle ne se trouva plus si abandonnée, elle pleura, sanglota, et caressa le petit enfant couché sur ses genoux, et « Alors ?» dit Polly, passant sa main sur les boucles de cheveux de la petite fille et les arrosant de ses larmes. « Alors, pauvre chère petite !»«
C'est du joli, mademoiselle Florence. Votre papa sera content !» cria vivement une voix à la porte.
Puis on vit apparaître une jeune fille, ou plutôt une petite faune de 14 ans. Elle était courte, brune. Elle avait le nez retroussé, les yeux noirs comme du jais.
« C'est du joli !»«
Quand il vous a été expressément défendu de venir ennuyer la nourrice. »«
Elle ne m'ennuie pas, » répondit Polly, toute surprise. « Je suis folle des enfants. »«
Pardon, madame Richard, cela ne fait rien, savez-vous, » répliqua la jeune fille, qui était si aigre et si cuisante dans ses réparties, « qu'elle vous faisait venir les larmes aux yeux, comme lorsqu'on respire du vinaigre. Moi, j'aime les vignaux à la folie. » Mais il ne s'ensuit pas que je doive les manger avec mon thé.
Qu'est-ce que cela fait ? Dit Polly.
Oh, oh, cela fait beaucoup, madame Richard, répliqua la petite bonne de son ton aigre. Souvenez-vous seulement, s'il vous plaît, que mademoiselle Florence est sous ma garde et monsieur Paul sous la vôtre.
Je le veux bien, dit Polly, mais ce n'est pas une raison pour nous fâcher.
Oh non, madame Richard, répondit mademoiselle Salpêtre, je n'en ai pas la moindre envie. Et ce n'est pas la peine de nous mettre sur ce pied-là, d'autant plus que la garde de mademoiselle Florence n'est pas pour durer un jour, tandis que celle de monsieur Paul n'est que temporaire. Salpêtre, dans ses discours, ne connaissait pas les virgules. Elle lançait ce qu'elle avait à dire tout d'un trait et d'une seule haleine. « Mademoiselle Florence ne fait que d'arriver, n'est-ce pas ? » demanda Polly.
« Oui, madame Richard, elle ne fait que d'entrer.
Et vous, mademoiselle Florence, comment ? Il y a à peine un quart d'heure que vous êtes à la maison, et vous allez déjà noircir votre figure toute mouillée sur les beaux vêtements de deuil que madame Richard porte pour votre maman. » Après cette remontrance, la petite Salpêtre, dont le nom réel était Suzanne Nepper, arracha l'enfant des bras de sa nouvelle amie, comme on arrache une dent d'une seule secousse. Pourtant, en agissant ainsi, elle paraissait seulement exercer ses fonctions officielles dans toute leur rigueur, mais il n'y avait pas chez elle méchanceté préméditée.
« Elle est bien contente d'être revenue, » dit Polly, dont la bonne grosse figure s'épanouissait.
Puis, adressant un sourire amical à l'enfant, elle ajouta, « Elle va être bien heureuse de voir son cher papa ce soir. »«
Son cher papa, madame Richard, » dit Suzanne en secouant la tête.
« Oh Dieu non, voir son cher papa, il ne manquerait plus que ça. »«
Pourquoi pas, » dit Polly.
Ah, Dieu, madame Richard, son papa est bien trop occupé d'un autre, et avant même d'être occupé de cet autre, il n'a jamais beaucoup gâté la petite. Les filles sont jetées de côté dans cette maison, madame Richard.
Les yeux de l'enfant se portèrent vivement de la bonne à la nourrice, comme si elle eût compris et senti la portée de ses paroles.
Vous m'étonnez, dit Polly. Est-ce que monsieur Dombey ne l'a pas vu depuis l'événement ?
Non, répliqua Suzanne. « Pas une fois depuis l'événement, et je crois qu'avant, il y avait déjà bien des mois qu'il ne la regardait pas. Je ne suis pas sûr qu'il l'eût reconnue pour sa fille s'il l'avait rencontrée dans les rues, ni qu'il l'a reconnue même demain s'il la rencontrait.
« Pour moi, madame Richard, » dit Salpêtre en riant jaune, « je ne suis pas bien sûr qu'il sache même que j'existe. »«
Pauvre petite, » dit Richard en parlant non pas de Suzanne, mais de la petite Florence.
« Oh, il y a pas loin d'ici un vieil ogre. J'en sais quelque chose. L'honorable compagnie ici présente est acceptée, bien entendu, » dit Suzanne Nipper.
« Je vous souhaite le bonsoir, madame Richard.
Maintenant, mademoiselle Florence, venez avec moi. Allons, ne lambinons pas, petite vilaine. Vous ne craignez donc pas d'être punie ?»
En dépit de cet avertissement et des efforts de Suzanne, qui la tirait de manière à lui démancher l'épaule droite, la petite Florence s'échappa et vint embrasser tendrement sa nouvelle amie.
« Adieu, » dit l'enfant. « Merci, merci.
Je reviendrai vous voir bientôt, et vous viendrez aussi me voir. Suzanne le permettra, n'est-ce pas, ma petite Suzanne ? »
Mademoiselle Salpêtre appartenait à cette nouvelle école qui croit que la jeunesse est comme l'argent et qu'elle a besoin, comme lui, d'être agitée, remuée, secouée, pour toujours reluire. Mais, au fond, c'était une bonne nature. Car lorsqu'on l'eut prise par les sentiments, en la câlinant, elle se croisa les bras, secoua la tête et adoucit l'expression un peu dure de ses grands yeux noirs.
« Ce n'est pas bien, mademoiselle Florence, de me demander cela. Vous savez que je ne sais rien vous refuser.
Mais nous déciderons, madame Richard et moi, si cela se peut. Si cela fait plaisir, madame Richard, voyez-vous, je ne dis pas non. Je ne dis pas que je n'aimerais pas à faire un tour en Chine, mais avec tout cela, je ne peux pas quitter les docks de Londres. »
Richard fit un signe d'assentiment. « La maison n'est déjà pas assez réjouissante, dit Suzanne, pour qu'on cherche à s'y isoler encore davantage. Si vos tox et vos chics m'arrachent deux molaires, ce n'est pas une raison pour que je leur sacrifie tout mon râtelier. »
Richard fit un nouveau signe d'assentiment. Elle trouvait la réflexion de Suzanne fort sage.
« Ainsi, reprit Suzanne, arrangerons-nous pour vivre en bonne intelligence tant que vous serez ici, si nous pouvons le faire sans désobéir ouvertement. »
« Mais bonté du ciel, mademoiselle Florence, vous n'avez pas encore fait déballer vos affaires, petite vilaine. Allons, dépêchons-nous d'y aller. »
Et ce disant, Suzanne Nipper, en humeur de faire acte d'autorité, poussa vigoureusement l'enfant et l'entraîna hors de la chambre.
Pauvre Florence, quelle douceur, quel calme, quelle résignation dans sa douleur et dans son abandon. Avoir un cœur si aimant, et ne trouver partout qu'indifférence, sentir si vivement son malheur et ne le voir compris par personne. Vraiment, elle était bien à plaindre. Aussi, quand la petite fille fut partie, Polly s'abandonna à de tristes réflexions sur le sort de sa jeune amie. Pendant le peu d'instants que la nourrice et l'orpheline avaient passé ensemble, Polly, dans sa tendresse maternelle, avait été touchée aussi profondément que l'enfant. À partir de ce moment, toutes deux s'aimaient et se comprenait. Malgré toute la confiance que M. Toodle avait en sa femme, Polly, sous le rapport de l'intelligence, ne le surpassait pas de beaucoup. Mais elle était une preuve que chez la femme, bien plus que chez l'homme, on trouve souvent bonté, franchise, élévation, noblesse, sensibilité, constance, tendresse et pitié, abnégation et dévouement. Et peut-être toute ignorante qu'elle était, elle aurait pu dès ce jour éclairer M. Dombey sur un point qui ne l'aurait pas frappé plus tard comme un coup de foudre. Mais n'anticipons pas. À ce moment, Polly songeait seulement à cultiver les bonnes grâces de Mademoiselle Nipper et à trouver un moyen pour garder avec elle la petite Florence légalement et sans révolte ouverte. Le hasard sembla venir à son aide le soir même. On l'avait sonné, comme d'habitude, pour se rendre à la galerie et elle s'y promenait déjà depuis longtemps, le petit enfant dans les bras, quand, à sa grande surprise, à son grand embarras même, M. Dombey entra tout à coup et s'arrêta devant elle.
« Bonsoir, Richard, » dit-il.
C'était toujours ce même homme, roide et sévère, tel qu'elle l'avait vu le premier jour. Il lui sembla si dur qu'elle baissa involontairement les yeux en faisant la révérence.
« Comment va M. Paul, Richard ?»«
Il profite, monsieur, et vient à merveille. »
« Oui, il paraît bien portant, » dit M. Dombey, regardant avec le plus grand intérêt cette petite figure que la nourrice avait découverte pour la lui faire voir et affectant cependant un air d'indifférence.
« On vous donne, n'est-ce pas, tout ce qu'il vous faut ?»«
Oui, monsieur, je vous remercie, » dit Polly. Mais il y eut dans sa réponse une hésitation si évidente que M. Dombey, qui s'en allait, s'arrêta court et revint sur ses pas comme pour la questionner.
« C'est que je crois, monsieur, que rien ne peut rendre les enfants aussi gais et aussi bien portants que de voir jouer autour d'eux d'autres enfants, » observa Polly s'enhardissant.
« Il me semble, Richard, » dit M. Dombey en fronçant le sourcil, « que le jour même où vous êtes entré ici, je vous ai prié de voir vos enfants le moins possible. Continuez votre promenade, s'il vous plaît. »
Et en disant ces mots, il rentra dans sa chambre. Polly vit bien que M. Dombey ne l'avait pas comprise et qu'elle s'était attiré son mécontentement sans avoir fait un pas vers l'accomplissement de ses desseins.
Le lendemain, dans la soirée, quand elle descendit dans la galerie, M. Dombey s'y promenait. Saisie de le retrouver là contre son ordinaire, elle s'arrêta sur le pas de la porte, ne sachant si elle devait avancer ou reculer. M. Dombey lui fit signe d'entrer. Puis, il lui dit d'un ton brusque, et comme s'il continuait sans interruption la conversation de la veille, « Si vous croyez réellement une telle société salutaire à l'enfant, où est Mademoiselle Florence ?»«
Mademoiselle Florence, ce serait très bien, monsieur. Mais la petite bonne m'a dit qu'il ne fallait pas. »
M. Dombey sonna et continua sa promenade en attendant qu'on vînt. « Dites qu'on laisse Mademoiselle Florence avec Richard autant qu'elle le désirera, qu'on la laisse sortir avec elle, et ainsi de suite. Dites que les enfants resteront ensemble toutes les fois que Richard le souhaitera. » Pendant que le fer était chaud, Richard n'hésita pas à le battre hardiment. Sa cause était bonne, et elle se sentait forte malgré la peur que lui inspirait M. Dombey. « Il faudra, dit-elle, m'envoyer de temps en temps Mademoiselle Florence, pour qu'elle fasse connaissance avec son petit frère. » Elle fit semblant de bercer le petit Paul, pendant que le domestique se retirait avec les ordres qu'il avait reçus. Mais elle crut voir M. Dombey pâlir, l'expression de son visage s'altérer. Il se retournait déjà pour donner contre-ordre, et n'était la honte, il allait contremander ce qu'il venait de dire, ou ce qu'elle-même venait de dire, peut-être même les deux choses à la fois. Elle ne se trompait pas. La dernière fois que M. Dombey avait vu sa petite abandonnée, c'était au moment de cette triste étreinte de la mère mourante et de l'enfant. Ce spectacle avait été pour lui une révélation, un reproche. Tout absorbé qu'il était par son fils, sur lequel il fondait de si hautes espérances, il ne pouvait oublier cette scène suprême. Il ne pouvait oublier que lui, il n'y avait joué aucun rôle. Au fond de son cœur, se reflétaient ces deux figures étroitement serrées l'une contre l'autre, tandis que lui, près d'elle, témoin de leur douleur, n'avait point pris sa part de ce dernier adieu dont il n'était qu'un spectateur oiseux, comme un étranger qui regarde à la porte. Comme il ne pouvait éloigner ses pensées de son souvenir, ni chasser de son cœur ces images qui l'obsédaient et qui se faisaient jour à travers son orgueil, son indifférence pour la petite Florence se changeait en un malaise indéfinissable. Il lui semblait que l'enfant le comprenait, l'épiait et le devinait, qu'elle avait découvert dans le fond de son cœur un secret que lui-même connaissait à peine, qu'elle lui avait trouvé une fibre du cœur dont elle pouvait d'un souffle faire vibrer les sons âpres et discordants. Depuis la naissance de sa fille, M. Dombey n'avait eu pour elle qu'un sentiment négatif. Il n'avait jamais eu d'aversion pour elle, il n'en avait eu ni le goût ni le temps. Florence ne lui avait jamais déplu positivement, mais il se trouvait maintenant gêné à son sujet. Elle troublait son repos, et s'il avait pu, il aurait voulu mettre de côté cette idée-là. Peut-être, qui peut sonder de tels mystères? Peut-être craignait-il d'en venir à la haïr un jour. Quand la petite Florence parut timidement à la porte, M. Dombey s'arrêta pour la regarder. S'il l'eût regardée avec plus d'intérêt, avec les yeux d'un père, il aurait lu dans ses yeux brillants les élans de tendresse, les sentiments de crainte qui la faisaient hésiter sur le seuil. Il aurait deviné le violent désir qu'avait la pauvre enfant de se jeter à son cou en pleurant et de lui dire au milieu de ses baisers « Oh, mon père, essaye de m'aimer, je n'ai plus que toi. » Mais elle serait repoussée peut-être. Sa hardiesse pouvait offenser son père. Un mot seul l'aurait rassuré, l'aurait encouragé, et son cœur, qui débordait, ne demandait qu'à trouver à qui confier sa douleur, à qui donner son amour. M. Dombey ne vit rien de tout cela. Il ne vit que l'indécision de l'enfant qui restait à la porte et le regardait. Il ne vit rien de plus. « Entrez, dit-il, entrez. Qui peut donc l'effrayer ?» Elle entra, et après avoir jeté autour d'elle un regard incertain, elle s'arrêta, les deux mains fortement serrées l'une contre l'autre. « Venez ici, Florence, » dit M. Dombey froidement. « Est-ce que vous ne me reconnaissez pas ?»« Si, papa. N'avez-vous rien à dire ?» Elle regarda son père, mais les larmes qui roulaient dans ses yeux s'y glacèrent devant l'expression de ce visage sévère. Elle baissa la tête et tendit sa main tremblante. M. Dombey la prit négligemment dans la sienne et considéra un moment la petite fille d'un air presque aussi embarrassé qu'elle. « Allons, soyez gentille, » dit-il, en lui donnant une petite tape sur la joue et lui jetant à la dérobée un regard troublé et incertain. « Allez près de Richard, allez !» La petite fille hésita encore, comme si elle eût voulu pourtant se jeter à son cou. Peut-être aussi espérait-elle qu'il allait l'enlever dans ses bras pour l'embrasser. Elle le regarda en face une fois encore. M. Dombey retrouva dans ce regard l'expression qu'il avait remarquée cette nuit fatale quand la petite fille s'était tournée vers le docteur. Il laissa retomber sa main et regarda d'un autre côté. Il était facile de voir que Florence perdait beaucoup en présence de son père. Devant lui, elle n'avait ni dans ses paroles ni dans ses mouvements l'abandon de son âge. Polly s'en apercevait sans se décourager. Jugeant de M. Dombey par elle-même, elle espérait que les vêtements de deuil portés par Florence parleraient pour la pauvre enfant. « Il serait par trop fort, » pensait la bonne nourrice, « qu'il s'attachât à un seul de ses enfants orphelins, quand il en a un autre devant les yeux, et une fille encore. » Aussi Polly eut-elle soin de la faire rester devant ses yeux le plus longtemps possible. Elle fit si bien que le petit Paul paraissait beaucoup plus gai dans la compagnie de sa sœur. Lorsqu'il fut temps de remonter, elle voulut envoyer Florence dans la chambre de son père pour lui dire bonsoir. Mais l'enfant était timide et s'y refusa. Polly la pressa, et la pauvre petite, se cachant la figure dans ses mains, s'écria « Oh non, non, il ne me demande pas, il ne me demande pas !» Cette petite altercation avait attiré l'attention de M. Dombey, qui prenait son verre de xérès. « Qu'est-ce ? » demanda-t-il sans se déranger de la table où il était assis. « Mademoiselle Florence craignait de vous interrompre, monsieur, en allant vous souhaiter le bonsoir, » dit Richard. « C'est bon, » répondit M. Dombey. « Vous pouvez la laisser entrer et sortir sans s'occuper de moi. » L'enfant recula en entendant ces mots et disparut avant que son humble protectrice eût eu le temps de s'en apercevoir. Cependant, Polly était toute triomphante du succès de son honnête stratagème et se réjouissait de l'adresse avec laquelle elle l'avait fait réussir. Aussi fit-elle à Mademoiselle Salpêtre un récit détaillé de tout ce qui s'était passé quand elle fut en sûreté derrière les verrous de sa chambre. Mademoiselle Nipper reçut cette preuve de confiance aussi bien que l'espoir exprimé par elle de leur libre association dans l'avenir assez froidement et sans s'abandonner à de grandes démonstrations de joie. « J'imaginais que vous alliez être bien contente, » dit Polly. « Oh, sans doute, Madame Richard, je suis bien contente, » répondit Suzanne, qui se redressa d'un air si roide qu'on aurait cru qu'il venait de lui pousser tout à coup un second busque à son corset. « Mais vous ne le montrez guère, » dit Polly. « Oh, moi je ne suis qu'une bonne permanente, » reprit Suzanne, « et je ne puis pas me réjouir comme une temporaire. » Les temporaires ici ont le vent en poupe, je le vois bien. Mais le mur mitoyen a beau être bien solide, ce n'est pas une raison pour que j'aie envie de m'aventurer dessus, Madame Richard.
Chapitre 4. De nouveaux personnages paraissent sur la scène. Quoique les magasins de Dombey et fils fussent en pleine cité de Londres, presque sous les cloches de Bow Church, dont le brouhaha des rues couvrait cependant parfois les voies retentissantes, quoique ce fût là le quartier classique des affaires, on pouvait encore trouver dans le voisinage des traditions d'aventure romanesque. À 10 minutes se tenaient majestueuses sur leur base les colossales statues de Gog et de Magog. La bourse était tout près. La banque, avec ses voûtes creusées dans le royaume des morts et remplie d'or et d'argent, était leur opulente voisine. Au coin de la rue se voyait le magnifique hôtel de la Compagnie des Indes, où se trouvent réunies toutes les curiosités des pays lointains. Étoffes précieuses, pierres, tigres, éléphants avec leurs tours, chibouks, grands parasols, palmiers, palanquins, fastueux nabab au teint cuivré, assis sur de riches tapis, les pieds dans leurs babouches pointues. À droite et à gauche, c'était sur des tableaux, des navires prêts à faire voile pour toutes les contrées du monde. Des magasins si bien fournis qu'en moins d'une heure, on pouvait s'y procurer tous les objets nécessaires à un voyage de long cours. Puis des boutiques d'opticiens sur les portes desquelles
se voyaient des enseignes en bois représentant de petits aspirants de marine en uniforme de l'ancien régime, dont toute l'occupation consistait à regarder passer les fiacres du matin au soir. Le seul et unique propriétaire d'un de ces petits bonshommes en bois, tout ce qu'il y a de plus bois, suspendu au-dessus du trottoir, la jambe droite en avant dans la pose la plus péniblement gracieuse, portant à ses souliers des boucles incroyables, sur sa poitrine un gilet à revers tout à fait déraisonnable, et tenant à son œil droit une lunette si volumineuse qu'on l'eût prise pour un télescope, le seul et unique propriétaire de ce petit aspirant de marine, tout fier d'une telle possession, était un homme assez âgé, portant une perruque galloise. Il avait payé pour son petit bonhomme des impôts, des contributions, des redevances, des taxes, des surtaxes, pendant plus d'années que bien des aspirants de marine en chair et en os n'avaient compté d'années de service. Et pourtant, il n'en manque pas dans la marine anglaise, qui sont devenus de jolis petits vieillards dans l'état d'aspirant. Le fonds de commerce de ce brave homme se composait de chronomètres, de baromètres, de télescopes, de compas, de cartes, de map-monde, de sextants, de quadrants et de modèles de tous les instruments utiles pour les traverser. On y trouvait aussi des tables de loch ou les annales de découverte. Dans les tiroirs et sur les planches, on voyait des instruments en verre ou en cuivre si compliqués qu'il fallait être du métier pour en ajuster les parties et pour en comprendre l'usage. Et, après un examen attentif, on aurait eu grand-peine à les remettre dans leur boîte d'acajou sans l'aide d'un connaisseur. Tous ces objets étaient arrangés avec le plus grand soin dans d'étroites petites cases bien adaptées aux plus petits coins, maintenues et serrées par de petits coussins qui devaient les empêcher d'éprouver le moindre trouble du tangage ou du roulis. On avait pris tant de précautions pour ménager la place et pour faire tenir chaque chose dans le plus petit espace possible. Tous les instruments étaient si bien serrés, si bien enveloppés, si bien maintenus dans leur boîte, quelle qu'en fût la forme, car il y en avait de plats, d'autres qui ressemblaient à un tricorne ou à une étoile de mer, et ce n'était pas là les plus bizarres. Tout était si bien rangé que la boutique elle-même, par contagion, semblait un petit navire n'attendant qu'un bon vent pour se mettre à la mer et cingler tranquillement à la recherche de quelque île déserte. Ce qui venait encore ajouter à l'illusion, c'était certains détails de la vie intime du vieil opticien, si fier de son petit aspirant. Comme tous ses amis étaient en général des fournisseurs de bâtiments, on voyait toujours sur sa table de vrais biscuits de mer. Il aimait les viandes salées, les langues fumées, quand elles sentaient surtout un bon goût de corde neuve et de filasse. Les conserves au vinaigre étaient en montre dans d'énormes terrines avec ces mots sur les étiquettes, négociants en provisions de toutes sortes pour les navires. Les liqueurs fortes étaient contenues dans de grandes bouteilles d'osier sans goulot. Sur les murs, on voyait, confondus dans leurs cadres de vieilles gravures de navires avec des renvois alphabétiques aux différentes pièces de leur structure, sur les assiettes, c'était la frégate Le Tartare, voile déployée. La cheminée était ornée de coquilles exotiques, de plantes marines, de mousse, et enfin la petite salle à manger, toute boisée, était éclairée d'en haut par un châssis vitré, comme la cabine d'un bâtiment. C'était dans ce milieu que vivait l'opticien, à peu près comme un capitaine de navire, seul avec son neveu Walter. Walter était un jeune garçon d'environ 14 ans, ayant assez la tournure d'un aspirant marine, comme pour couronner le tableau, mais là s'arrêtait l'illusion. Solomon Gills, autrement nommé le vieux Sol, ne ressemblait guère à un marin. Sans parler de sa perruque, aussi galloise qu'il y en eut jamais, et qui était bien loin de lui donner l'air d'un corsaire. C'était un homme réfléchi, ne parlant et n'agissant que par compas et par mesure. Ses yeux rouges ressemblaient à de petits soleils perçant un brouillard, et il avait toujours l'air d'un homme qui vient de se réveiller. On eût dit qu'il était resté 3 ou 4 jours de suite, les yeux appliqués sur chacun de ses instruments d'optique, et que, rendu à la vie ordinaire, tout lui paraissait trouble. Le seul changement qu'on eût jamais noté dans sa personne extérieure, c'était qu'il avait quitté un habillement complet couleur café, à larges pans et orné de boutons éblouissants, pour un autre habillement du même genre, toujours couleur café, excepté la culotte, qui était, au moment où nous parlons, d'un nankin pâle. Il portait scrupuleusement un jabot, relevait sur son front une paire de lunettes premier numéro, et avait dans son gousset un formidable chronomètre. Plutôt que de douter de l'exactitude de ce précieux objet, il aurait mieux aimé croire à une conspiration tramée contre lui par toutes les montres et toutes les horloges de la ville. Que dis-je ? Par le soleil lui-même. Tel on le voyait alors, tel on l'avait toujours vu dans sa boutique ou dans sa salle à manger, derrière la même enseigne, depuis bien des années. Chaque soir, il montait régulièrement dans une espèce de mansarde isolée et ouverte à tous les vents, si bien que les gens qui habitaient un étage inférieur trouvaient le temps simplement au variable quand il était pour lui à la tempête. Au moment où le lecteur fait connaissance avec Solomon Gills, il est 5h30. C'est une après-dînée d'automne. Solomon regarde l'heure à son infaillible chronomètre. Voilà une heure à peu près que l'on a abandonné la cité et que les omnibus roulent vers l'ouest, le flot des déserteurs. Les rues, comme dit M. Gills, se sont joliment nettoyées. De gros nuages présagent la pluie pour ce soir. Tous les baromètres de la boutique sont bas et déjà quelques gouttes d'eau brillent sur le chapeau à trois cornes du petit bonhomme de bois. « Où diantre est passé Walter ?» dit M. Solomon, après avoir rengainé avec soin son chronomètre. « Le dîner est prêt depuis une demi-heure, et pas de Walter. » Là-dessus, M. Gills rentre derrière son comptoir et regarde à travers les instruments de l'étalage s'il ne verra pas venir son neveu. Mais il ne reconnaît pas sa figure sous les parapluies qui se balancent dans la rue. « Voilà bien un jeune homme qui passe, mais ce n'est pas Walter. » C'est le porteur de journaux, avec son imperméable, qui flâne devant la boutique, s'amusant avec son index à écrire son nom au-dessus du nom de M. Gills le long de la plaque de cuivre extérieure. Si je ne savais pas qu'il m'aime trop pour faire une escapade et s'engager à bord d'un navire malgré moi, je commencerais à m'inquiéter, dit M. Gills, en frappant légèrement du revers de ses doigts deux ou trois baromètres. Oui, vraiment, je serais inquiet. Et M. Gills de fredonner « la 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 » sur la vague écumante, puis en s'interrompant de lui-même « Tiens » dit-il, « voilà la pluie. Tant mieux. C'est ce qu'il faut. » « Je crois, » continue M. Gills en soufflant sur le verre d'une petite boussole pour en chasser la poussière, « je crois, ma petite boussole, que votre aiguille fait comme mon neveu. Elle n'incline guère du côté de la salle à manger, et pourtant la salle à manger est au nord, plein nord, elle ne s'en écarte pas de la 20e partie d'un degré. Hé, l'oncle Sol ! Hé, mon neveu ! Cria l'opticien en se retournant vivement. Quoi, c'est vous ? Est-ce bien vous ? C'était bien Walter. Sa bonne et joyeuse figure, plus fraîche encore sous la pluie qu'il avait reçue en revenant à la maison, ses traits réguliers, ses yeux brillants, ses cheveux frisés. Eh bien, mon oncle, comment avez-vous passé la journée sans moi ? Le dîner est-il prêt ? « Je meurs de faim. »« Oh oh !» dit Solomon d'un ton amical. « Ce serait bien le diable si je ne pouvais me passer d'un jeune drôle comme vous. Quant au dîner, mon neveu, il y a une demi-heure qu'il est prêt et qu'il vous attend. Enfin, si vous avez l'estomac creux, le mien l'est tout autant. Alors, marchons, mon oncle, et vive l'amiral !»« Le ciel confonde votre amiral, » répliqua Gills. « Vous voulez dire « vive le Lord Mayor ?» « Non pas, non pas !» dit le jeune homme. « Vive l'amiral ! Vive l'amiral ! Et en avant !» À cette parole de commandement, la perruque galloise et son maître furent entraînés sans résistance dans la salle à manger, comme si à la tête de 500 hommes, ils eussent monté à l'abordage. Et bientôt, l'oncle et le neveu entamèrent une sole frite qu'un bon beefsteak devait suivre. « Ô Lord Mayor, Walter !» dit Solomon. « Ô Lord Mayor, pour toujours ! Plus d'amiral !» Le Lord Mayor est votre amiral. Oh, vous croyez, dit le jeune homme en secouant la tête, mais l'huissier qui le précède est plus amiral que lui. Il tire au moins son épée quelquefois. Oui, et il fait une jolie mine quand il la tire, répliqua l'oncle. Écoutez, Walter, écoutez-moi. Regardez un peu au-dessus de la cheminée. Oh, s'écria le jeune homme, qui donc a pendu ma timbale à un clou? Moi, dit l'oncle, plus de timbale maintenant. À partir d'aujourd'hui, on boit dans des verres. Nous sommes commerçants. Nous faisons partie de la cité. Nous entrons dans la vie ce matin. Mon oncle, dit le jeune homme, je boirai dans tout ce qu'il vous plaira, aussi longtemps que je pourrai boire à votre santé. À vous donc, cher oncle, et vivat à l'âme. Au Lord Mayor, interrompit le vieillard. au Lord Maire, au shérif, au conseil municipal, aux notables de la cité, dit le jeune homme, longue vie leur soit donnée. L'oncle remua la tête en signe de grande satisfaction. Et maintenant, dit-il, parlons de cette maison de commerce.
Oh, mon oncle, il y a peu de choses à dire sur ce sujet, reprit le jeune homme, balançant sa fourchette et son couteau.
C'est une longue enfilade de magasins assez sombres. Dans le bureau où l'on m'a placé, il y a un énorme garde-feu. Un coffre-fort, des cartes représentant les navires en partance, un almanach, des pupitres, des tabourets, une bouteille à encre, des livres, des boîtes, beaucoup de toiles d'araignées, dont l'une juste au-dessus de ma tête garde une grosse mouche à viande si desséchée qu'on voit bien que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle est pendue là.
« Et rien de plus ?» dit l'oncle.
« Non, rien de plus. Ah, si fait, j'oubliais. Il y a encore une vieille cage, je ne sais trop comment elle s'y trouva, par exemple, et puis un seau à charbon de terre.
Comment ? Pas de grands livres de commerce, pas de livres de mandat, pas de billets à vue, au porteur, pas la moindre trace des sommes énormes qu'on remue là chaque jour, dit le vieux sol en appuyant avec intention sur chaque mot et regardant fixement son neveu, comme si le brouillard qui troublait habituellement sa vue se fût dissipé un instant.
« Si, vraiment, il y en a des quantités, » répondit négligemment Walter. « Mais il y en a tout autant dans le bureau de M. Carker, dans celui de M. Morfin et dans celui de M. Dombey. »
« À propos de M. Dombey, y était-il aujourd'hui ?» demanda l'oncle.
« Oui, toute la journée. Il n'a fait qu'aller et venir. »«
Sans faire attention à vous, je suppose. »«
Si, il m'a vu. Il s'est même approché de ma place et j'aurais bien donné quelque chose pour qu'il fût moins grave et moins roide. »
« Vous êtes le fils de M. Gills, l'opticien » m'a-t-il dit.
« Non, monsieur, ai-je répondu, son neveu. »«
C'est ce que j'ai dit, jeune homme. »«
Mais je jurerais bien, mon oncle, qu'il avait dit son fils. »«
Vous avez mal entendu, sans doute, mais cela ne fait rien. »«
Cela ne fait rien, certainement, et ce n'était pas une raison, il me semble, pour être si sec. »«
Il n'y avait pas si grand mal à dire fils pour neveu. »
« Votre oncle, reprit-il, m'a parlé de vous et je vous ai trouvé une place dans la maison. Je compte sur votre soin et sur votre exactitude. » Là-dessus, il me tourna le dos et ce fut tout. J'imagine que je ne lui plais guère.
« Vous voulez dire, reprit l'opticien, qu'il ne vous plaît guère. »
« C'est bien possible, dit Walter en riant. Je n'y avais pas songé. » Solomon devint un peu plus sérieux en terminant son dîner et regarda de temps en temps à la dérobée la figure franche et ouverte du jeune homme. Quand le repas fut achevé et que la table fut débarrassée, car on avait apporté le dîner d'un restaurant voisin, le vieux sol alluma une chandelle et descendit à son petit caveau réservé, pendant que Walter, arrêté sur les marches glissantes de l'escalier, l'éclairait avec soin. Après avoir tâtonné un moment, il revint tenant à la main une vieille bouteille toute couverte de terre et de poussière.
« Que faites-vous, oncle Sol ?» dit le jeune homme.
« Mais c'est le fameux madère, et il n'en restera plus qu'une bouteille. » L'oncle Sol fit de la tête un mouvement qui voulait dire « Je sais ce que je fais. » Et ayant tiré le bouchon d'un air grave et solennel, il remplit deux verres et posa ensuite sur la table la bouteille avec un troisième verre.
« Vous boirez l'autre bouteille, Walter, » dit-il, « quand vous aurez fait fortune, quand vous serez devenu riche, respecté et heureux. » Quand la route qui vient de s'ouvrir aujourd'hui devant vous vous aura conduit, ce que j'espère, à une position où vous trouverez la récompense de toutes vos peines. À votre prospérité, donc, mon enfant. » Le brouillard qui troublait la vue du vieux sol avait pénétré sans doute jusqu'au fond de sa gorge, car il était sensiblement enroué en prononçant ces paroles. Sa main tremblait aussi quand il trinqua avec son neveu. Mais ayant porté vaillamment le verre à sa bouche, il le vida sans trembler et fit claquer ses lèvres.
« Cher oncle, » dit le jeune homme, cherchant à déguiser son émotion, tandis que des larmes brillaient dans ses yeux, « cher oncle, je bois à l'honneur que vous m'avez fait, et etc. Je porte à M. Solomon Gills les trois toasts d'usage, trois fois répétés, avec un autre encore par-dessus le marché. Vivat ! Et j'espère, mon oncle, que vous me ferez raison quand nous boirons ensemble la dernière bouteille, n'est-ce pas ? »
Ils trinquèrent de nouveau, et Walter, qui n'avait pas encore touché à son vin, en avala une gorgée et leva ensuite son verre à la hauteur de son œil, en se donnant l'air d'un profond connaisseur.
Son oncle le regarda quelque temps en silence. Puis leurs yeux étant venus à se rencontrer, il poursuivit tout haut, comme s'il n'avait pas cessé de parler, le sujet qu'il avait occupé mentalement. « Vous le voyez, Walter, mon commerce est une habitude pour moi, » dit-il. « J'y suis tellement fait qu'il me manquerait quelque chose si je vendais mon fonds. Mais on n'y fait rien, absolument rien. » Du temps où l'on portait cet uniforme, continua-t-il, en indiquant du doigt l'habit du petit bonhomme de bois, on pouvait s'enrichir et bien des gens ont fait fortune. Mais depuis, concurrence sur concurrence, invention sur invention, changement sur changement sont survenus, le siècle enfin a marché plus vite que moi. Je ne sais plus où j'en suis, encore moins où sont mes pratiques. N'y pensez pas, mon oncle. Voyons, vous êtes sorti de votre pension de Peckham il y a environ 10 jours, n'est-ce pas ? Dit Solomon. Eh bien, je ne me rappelle pas avoir vu plus d'une personne entrer dans ma boutique. Je vous demande pardon, il y a l'homme qui est entré pour changer un louis. Eh bien, c'est la personne dont je parle. Mais attendez donc, mon oncle, ne vous souvient-il pas d'une dame qui vous a demandé son chemin pour aller à Mile End ? C'est vrai, dit Solomon, je l'avais oublié. Oui, cela fait 2 personnes. Il est vrai qu'elles n'ont rien acheté, dit Walter. Non, absolument rien, dit Solomon tranquillement. Et qu'elles n'avaient même besoin de rien. Non, vraiment, continua Sol du même ton. S'il leur avait fallu quelque chose, ce n'est pas ici qu'elles seraient entrées. Mais enfin, cher oncle, s'écria le jeune garçon tout triomphant, vous disiez qu'il n'était venu qu'une seule personne, et il en est venu 2. Eh bien donc, Walter, conclut le vieillard, après un moment de silence, n'étant pas comme les sauvages qui vinrent trouver Robinson dans son île, nous ne pouvons pas compter pour vivre sur un homme qui veut changer la monnaie d'un louis d'or et sur une femme qui demande le chemin de Mile End. Comme je le disais, le siècle a marché plus vite que moi. Je ne l'en blâme pas, mais je ne puis plus le comprendre. Les commerçants, les ouvriers, les affaires, les objets de vente ne sont plus les mêmes. Tout a changé. Les 7/8 de mon fonds ne sont plus de mode. J'ai vieilli dans ma vieille boutique, dans cette rue que je ne reconnais plus. Je suis resté bien en arrière du siècle. Il est trop tard maintenant pour le rattraper. Le bruit même qu'il fait au loin, devant moi, m'étonne et m'étourdit. Walter allait parler. Son oncle l'arrêta d'un geste. « Aussi, Walter, aussi, je désire que vous entriez à temps dans le monde des affaires et que vous y suiviez le monde à la course. Pour moi, je ne suis plus que l'ombre de mon commerce. La réalité a disparu depuis longtemps, et quand je ne serai plus, l'ombre aussi se sera évanouie. Comme vous n'avez pas d'héritage à espérer, j'ai pensé qu'il fallait profiter pour vous du peu d'amis qu'une longue habitude m'a conservé. Quelques personnes s'imaginent que je suis riche. Je le voudrais pour vous, Walter, mais quoi que je laisse après moi, ou quoi que je puisse vous donner, dans une maison comme celle de Dombey, vous pourrez en tirer et vous en tirerez le meilleur parti possible. Soyez actif, mon enfant, prenez goût aux affaires, travaillez pour gagner une solide indépendance, et puissiez-vous être heureux. Je ferai tout mon possible pour me montrer digne de votre affection, dit le jeune homme avec sentiment. Oui, tout, mon cher oncle. Je le sais, dit Solomon, j'en suis sûr, et il se versa un second verre de son vieux madère qu'il but avec plus de plaisir encore que le premier. Quant à la mer, mon enfant, c'est beau en rêve, mais de fait, cela ne mène à rien du tout. Il est assez naturel, cependant, que vos idées se soient tournées de ce côté, entourées, comme vous l'êtes, de tout ce qui a rapport à la mer. Mais, croyez-moi, c'est une mauvaise partie, tout à fait mauvaise. Solomon Gills se frottait pourtant les mains avec un secret plaisir en parlant de la mer, et il regardait avec une joie inexprimable les objets maritimes disposés tout autour de la chambre. « Songez à ce vin, par exemple, » dit le vieux Sol. « Il est allé aux Grandes Indes et en est revenu, je ne sais combien de fois. Il a même fait le tour du monde. Mais quelle nuit sombre, quels vents affreux, quels ouragans terribles !» « Oh oui !» s'écria le jeune homme, « le tonnerre, les éclairs, la pluie, la grêle et tout le tremblement. »« Certes, » dit Solomon, « ce vin a vu tout cela. Le navire résiste, les mâts craquent, dans les cordages siffle et mugit la tempête. Les matelots grimpent, c'est à qui atteindra le premier la vergue pour ferler les voiles, pendant que le navire, soulevé par les vagues, monte et descend comme un fou, remonte et plonge encore,
dit Walter.
C'est bien cela, dit Solomon. C'est bien cela ce qu'a vu la vieille barrique qui contenait ce vin. Rappelez-vous aussi Sarah la Belle, quand elle sombra. Dans la mer Baltique, au milieu de la nuit, c'était à minuit et demi que la montre du capitaine s'arrêta dans sa poche et que lui gisait sans vie au pied du mât de misaine. C'était le 14 février 1749, cria Walter, qui s'animait.
Oui, oui, reprit le vieux Sol, c'est bien cela. Il y avait à bord 500 barriques de ce vin-là, et tous les passagers, à l'exception du maître pilote, du lieutenant, de deux matelots et d'une dame qui furent sauvés dans une chaloupe, tous les passagers défonçant les barriques tombèrent ivres morts, chantant le « Rule Britannia », et alors elle s'abîma, et on n'entendit plus en cœur qu'un effroyable cri de détresse.
Et le George II, mon oncle, qui se brisa sur les côtes de Cornouailles dans une horrible tempête. C'était 2 heures avant le lever du soleil, le 4 mars 1771. Il y avait à bord 200 chevaux qui, brisant leurs liens dès le commencement de la tempête, se jetant à droite et à gauche, se ruant l'un contre l'autre, firent un tel vacarme et poussèrent de tels cris comme des hommes que l'équipage crut le vaisseau plein de démons et que les plus braves, perdant cœur et courage, se précipitèrent dans les flots. 2 matelots seuls restèrent pour raconter le désastre. Et puis, dit le vieux Sol, quand le Polyphème... Bâtiment marchand pour les Indes, 350 tonnes, capitaine John Brown de Deptford, armateur, Wiggs et compagnie.
C'est bien cela, dit Sol.
Il prit feu 4 jours après être sorti avec un bon vent du port de la Jamaïque dans la nuit.
Il y avait 2 frères à bord, interrompit Walter avec transport, et comme il n'y avait pas de place pour eux deux dans la seule chaloupe qui ne fut pas submergée, ni l'un ni l'autre ne voulait y descendre. L'aîné saisit le plus jeune par la taille et le jeta dans la chaloupe. Mais lui, se relevant, cria « Cher Édouard, songez à votre fiancée. Moi, je suis garçon. Personne ne m'attend là-bas. Prenez ma place. » Et il se précipita dans la mer. L'œil brillant, le teint animé du jeune homme qui s'était levé de son siège, exalté par ce qu'il disait et ressentait, sembla rappeler au vieux Sol quelque chose qu'il avait oublié. Peut-être aussi le brouillard qui l'environnait avait-il troublé ses idées. Au lieu de poursuivre les récits comme il avait paru d'abord en avoir l'intention, il eut 2 ou 3 fois une petite toux sèche et dit « C'est bon, parlons d'autre chose. » La vérité est que le bon oncle, attiré malgré lui vers toutes ces aventures merveilleuses et extraordinaires avec lesquelles son commerce l'avait familiarisé, avait grandement encouragé la même inclination chez son neveu. Tout ce qu'il avait fait ensuite pour éloigner le jeune homme d'une vie aventureuse avait eu l'effet généralement contraire et n'avait fait que lui aiguiser l'appétit, comme cela ne manque jamais. Écrivez un livre ou racontez une histoire dans le but de retenir les enfants à terre, vous êtes sûr qu'ils seront attirés et charmés par l'océan. Mais un nouveau personnage vint prendre part à la conversation. C'était un homme portant d'amples vêtements bleus, avec un crochet en guise de main à son poignet droit. Ses sourcils étaient noirs et épais. Dans sa main gauche, il tenait un gros bâton noueux. Son nez n'avait guère moins de bosse. Son cou était enveloppé dans une cravate de soie noire mal attachée, et sur ses épaules se rabattait un col de chemise si démesurément grand qu'on eût dit une petite voile. C'était évidemment à son intention qu'on avait préparé le verre vide. Il n'eut lui-même aucun doute à cet égard, car il approcha une chaise de la place réservée et s'assit sans façon, après s'être débarrassé de son manteau et avoir pendu à un certain clou derrière la porte son chapeau de toile cirée. Ce chapeau était si lourd qu'une personne délicate aurait eu la migraine rien qu'à le regarder, et l'arrêt rouge qu'il laissait autour du front du nouveau personnage pouvait faire croire qu'il avait eu la tête serrée dans un étau. On lui donnait ordinairement le titre de capitaine. Il avait été pilote, patron de navire ou corsaire, ou peut-être avait-il fait ses 3 métiers. Somme toute, il sentait le marin d'une lieue. Sa figure basanée s'épanouit quand il serra la main de l'oncle d'abord et du neveu ensuite. Mais il semblait de son naturel assez laconique, car il dit simplement « Comment ça va-t-il » « Très bien, » dit M. Gills en poussant la bouteille de son côté. Il la prit, l'examina, la flaira, et dit avec une expression singulière « C'est le... » « Oui, le... » reprit l'opticien.
Sur cette réponse, le capitaine fit un « hum » significatif, remplit son verre et parut croire que c'était vrai jour de gala.
« Walter, dit-il, en arrangeant avec son crochet ses cheveux qui couraient les uns après les autres, et montrant ensuite l'opticien, « Walter, regardez-moi cet homme-là. Amour, honneur et obéissance. Feuilletez votre catéchisme jusqu'à ce que vous trouviez ce passage, et quand vous l'aurez trouvé, vous n'aurez pas besoin d'en dire plus long. À votre succès, mon garçon. » Il était tellement satisfait de cette citation et de l'application qu'il en avait faite, qu'il ne put s'empêcher de répéter ces mots tout bas, en ajoutant qu'il y avait bien 40 ans qu'il ne les avait pas répétés. « Mais quand j'ai besoin dans ma vie de 2 ou 3 mots, Kills, je n'ai jamais été embarrassé pour mettre la main dessus. J'ai toujours pu les trouver à temps. C'est que je ne gaspille pas les mots, comme tant d'autres. » Cette réflexion lui rappela qu'il aurait mieux fait peut-être d'imiter le père du jeune Norval, dont le constant souci fut d'accroître son bien. Dans tous les cas, il devint silencieux jusqu'au moment où le vieux Solomon sortit pour éclairer sa boutique. Il se tourna alors vers Walter et dit sans transition, « S'il l'essayait, je suis sûr qu'il pourrait faire une horloge. »« Cela ne m'étonnerait pas, capitaine Cuttle, » répondit le jeune homme. « Et qui marcherait bien par-dessus le marché ?» dit le capitaine Cuttle, décrivant avec son crochet dans l'air le mouvement d'un balancier. « Oh, comme elle marcherait !» Pendant 1 minute ou 2, il sembla perdu dans la contemplation de cette horloge idéale et resta les yeux fixés sur le visage du jeune homme, comme s'il l'eût pris pour le cadran. « C'est un puits de science, » dit-il en tournant son crochet vers la boutique. « Regardez-moi cette collection. La terre, l'air et l'eau, tout y est. Demandez et vous serez servi. Voulez-vous monter en ballon? Voilà. Descendre sous l'eau dans une cloche? Voilà. Si vous désirez, il pèsera l'étoile polaire dans ses balances. Il est capable de faire cela pour vous. » D'après les remarques faites par le capitaine Cuttle, il était facile de voir que son respect pour les instruments était profond, mais que sa philosophie n'allait pas jusqu'à faire une différence entre l'inventeur et le marchand. « Ah, dit-il avec un soupir, c'est une belle chose de comprendre tout cela. Mais, bah, c'est une belle chose aussi de n'y rien comprendre. En vérité, je ne sais pas ce qui vaut le mieux. C'est si agréable d'être là, assis, et de se dire qu'on peut vous peser, vous mesurer, vous grossir à vue d'œil, vous électriser, vous magnétiser, vous ensorceler, et de ne pas savoir comment. » Il fallait ce merveilleux madère combiné dans ses effets avec le désir de développer et d'étendre l'intelligence de Walter pour délier la langue du capitaine jusqu'à prononcer tout d'un trait cette prodigieuse harangue. Lui-même, il sembla étonné de découvrir pour la première fois les sources de jouissance délicieuse qu'il avait goûtées pendant plus de 10 ans consécutifs à dîner tous les dimanches dans cette salle à manger. Puis il devint plus sérieux et se mit à réfléchir. « Allons, dit-il, en rentrant l'objet de son admiration, avant de prendre votre grog, Édouard, il faut finir la bouteille. »« Tenez bon, dit Édouard, en remplissant son verre. Mais il faut en verser un peu plus au jeune homme. »« Non, merci, mon oncle, cela me suffit. »« Allons, voyons, dit Sol, encore un peu. Nous finirons la bouteille, Édouard, à la maison de Walter. »« Tiens, pourquoi pas? Elle pourrait bien un jour devenir la sienne, qui sait ?» Richard Whittington a bien épousé la fille de son maître. « Reviens donc, Whittington, Lord Maire de Londres, » chantonna le capitaine. Puis il ajouta, « Feuilletez la Bible, mon garçon, et... »« Quoique M. Dombey n'ait pas de fille, » reprit Sol. « Si fait, mon oncle, il en a une, » interrompit le jeune homme, riant et rougissant à la fois. « Il en a une ? » s'écria le vieux Sol. « Mais c'est vrai, je crois qu'il en a une. » « Oh, je le sais bien, » dit Walter. « On en parlait aujourd'hui au magasin. » « On dit, » ajouta-t-il plus bas, en se penchant vers son oncle et vers le capitaine, « on dit qu'il ne l'aime pas, qu'il l'abandonne au domestique sans songer à elle, et qu'il est tellement préoccupé d'avoir son fils dans sa maison de commerce, quoiqu'il ne soit encore qu'un marmot, qu'il fait ses comptes plus exactement et qu'il tient ses livres avec plus de soin qu'auparavant. On l'a même vu, sans qu'il s'en doutât, se promenait dans les docks, couvant des yeux ses bâtiments, ses marchandises, tout ce qu'il possède, enfin, comme s'ils se réjouissaient d'avance des biens qu'ils auront ensemble, lui et son fils. Voilà ce qu'on dit. Pour moi, j'ignore si c'est la vérité.
Vous voyez, dit l'opticien, il a déjà pris ses renseignements sur la demoiselle.
Quelle plaisanterie, mon oncle, répondit Walter, toujours rougissant et riant comme un enfant. J'ai entendu ce que l'on m'a dit, et voilà tout.
J'ai bien peur, Edouard, que l'enfant ne soit rentré quelque peu dans vos vues, dit le vieux Sol, continuant de plaisanter.
Je crois qu'il y est tout à fait, dit le capitaine.
Néanmoins, nous boirons à sa santé, reprit Sol. Donc, à la santé de Dombey et fils.
Ah, c'est bien mon oncle, répliqua gaiement le jeune homme. Puisque vous avez parlé de la demoiselle, puisque vous avez joint mon nom au sien et que selon vous, j'en sais déjà long sur elle, je prendrai la liberté d'amender le toast. Donc, à la santé de Dombey et fils et filles.